Germaine Berton, une meurtrière de 20 ans. Narration, Florent Houllier. Le 22 janvier 1923, des coups de feu retentissent dans les locaux de l'Action française, rue de Rome à Paris, dans le 8e arrondissement. 4, puis un 5e. On entend des cris. Au premier étage, c'est le chaos. Une jeune femme a tiré sur le secrétaire général avant de retourner l'arme contre elle. Elle s'appelle Germaine Berton, elle a tout juste 20 ans. Elle vient de venger Jean Jaurès, assassiné 9 ans plus tôt. Cette meurtrière n'est pas inconnue des services de police malgré son jeune âge. En novembre 1921, Germaine Berton a été condamnée à 3 mois de prison pour outrage et violence sur un policier. Sur la photo anthropométrique prise dans les locaux de la préfecture de police, on voit qu'elle est coiffée à la garçonne. C'est une coupe très à la mode qui nous vient des États-Unis. Louise Brooks, une star hollywoodienne du cinéma encore muet, est coiffée comme ça. Durant les années folles, cette coiffure fait scandale. Une femme doit avoir les cheveux longs, attachés en chignon. C'est plus correct. Mais pendant la Première Guerre mondiale, qui vient de s'achever, les hommes sont partis au front. Les femmes, laissées seules, ont goûté à l'émancipation, et certaines n'ont pas envie de rentrer dans le rang quand les hommes reviennent aux affaires. Désormais, beaucoup d'entre elles travaillent et aspirent à plus de liberté. Bien sûr, ça ne concerne pas toutes les femmes. Les dames, comme il faut, gardent les cheveux longs. Mais les cheveux courts ne sont pas qu'une mode, et les hommes le savent bien. Ils sont une manière de dire non. Alors, aux yeux des hommes, la femme aux cheveux courts est suspecte d'à peu près tout. Le refus que Germaine Berton affiche avec sa coupe de cheveux n'est pas que social. Il est aussi politique. Germaine est une anarchiste. Germaine Berton est née en 1902 à Puteaux, d'une mère institutrice et d'un père ouvrier mécanicien. En 1912, la famille s'installe à Tours, 61 rue Henri Martin. C'est là que la petite Germaine va à l'école. Élève brillante, elle obtient son brevet supérieur puis s'inscrit à l'école des Beaux-Arts. Elle est très douée pour le dessin. La mort de son père la contraint à abandonner ses études, mais elle continue à lire beaucoup aux côtés de sa mère institutrice. Leurs rapports sont conflictuels. Ses parents ne s'entendaient pas et Germaine admirait son père. C'est avec lui qu'elle a forgé sa conscience politique, assistant à des meetings de Jean Jaurès, l'idole de son père. Germaine décide de s'installer à Paris en octobre 1921. Elle fréquente bientôt les milieux anarchistes et prend part à diverses manifestations. Elle mène, dès lors, ce qu'on estime être une vie déréglée, sans travail, sans mari. Le 22 novembre 1921, elle est condamnée à 3 ans de prison et 25 francs d'amende pour outrage et violence envers le secrétaire du commissariat de Saint-Gervais. Elle est enfermée à la prison pour femmes de Saint-Lazare, dont elle sort le 5 janvier 1922. C'est en prison qu'elle fait la connaissance de Madame Bernin de Ravisy, emprisonnée pour intelligence avec l'ennemi. Cette femme est la maîtresse de l'avocat Paul Meunier, connu pour défendre les laissés pour compte et les opprimés. En sortant de prison, Germaine est bien décidée à entamer des études de droit sous la direction de Paul Meunier, pour défendre elle aussi les plus démunis. Mais l'avocat meurt, et elle abandonne son projet. Elle se sépare de l'Union anarchiste car elle préfère faire bande à part. Elle conserve de nombreux amis anarchistes, mais en dehors de tout parti. Son esprit frondeur ne supporte pas d'être encadré ou borné. Elle est résolument libertaire, essentiellement libre. Elle ne se laisse ni impressionner, ni mater. Le 21 juin 1922, elle est arrêtée en compagnie d'anarchistes soupçonnés d'avoir cambriolé la maison d'un collectionneur de Saint-Germain et dérobé 20 toiles de maître. Elle est entièrement vêtue de rouge et armée d'un long poignard. Dans son portefeuille, on trouve des lettres compromettantes qui prouvent qu'elle a participé à un attentat contre l'ambassadeur des États-Unis en France. Interrogée au Quai des Orfèvres, Germaine se tait dans un premier temps. Puis, elle annonce qu'elle va commettre un assassinat politique. Le tribunal correctionnel écarte le délit de complicité de cambriolage et ne la condamne qu'à 1 mois de prison pour port d'armes prohibées. un mois aux frais de la princesse. À l'automne 1922, Germaine Berton séjourne dans une chambre au 268 rue Saint-Jacques. Mais elle ne peut pas payer son loyer et la Croix-Rouge lui vient en aide. Elle vit ensuite boulevard du Port-Royal, rue de Vaugirard, rue Pierre-Nice. Germaine Berton erre dans Paris, soutenue par ses amis anarchistes et libertaires. Elle semble s'éparpiller au gré des combats, mais elle a toujours à cœur de venger Jean Jaurès. Souvenez-vous, nous vous avons raconté l'assassinat de Jaurès le 31 juillet 1914 dans un épisode de la série « Célèbre et assassiné ». Trois jours après l'attentat de Sarajevo, qui a plongé toute l'Europe dans une importante crise diplomatique, le fondateur du journal « L'Humanité » est assassiné au Café du Croissant. C'est un pacifiste, un des derniers alors que l'Europe entière prépare la guerre. Le procès de son assassin, le nationaliste Raoul Villain, est sans cesse reporté en raison du conflit et n'a lieu qu'en mars 1919. Il est alors acquitté à 11 voix sur 12. La justice française estime donc que l'assassinat de Jaurès n'est pas un crime. Pour les anarchistes, c'est une véritable injustice et une provocation. Ils n'auront de cesse de vouloir venger la mort de Jaurès et parviendront à assassiner Raoul Villain en 1936, à Majorque où il est réfugié. Mais en 1922, Germaine Berton ne sait pas où se trouve l'assassin de Jaurès. Elle veut porter un coup fatal aux nationalistes et à l'extrême droite, très puissante en France. Elle choisit pour cible Léon Daudet. Pourquoi ? Parce qu'il est selon elle, et pour beaucoup, l'ennemi le plus acharné de la classe ouvrière et de la République. Pour le faire taire, il faut le supprimer. L'extrême gauche des anarchistes n'a pas le monopole de la violence dans la France du début du XXe siècle. L'extrême droite n'est pas moins virulente et elle s'incarne dans un mouvement nommé l'Action française et dans le journal du même nom. Fondé en 1899, au moment de l'affaire Dreyfus, c'est un mouvement royaliste, nationaliste et antisémite très virulent. Ses deux membres les plus influents sont alors Léon Daudet et Charles Maurras. Maurras est un intellectuel qui a bâti sa pensée sur le rejet de l'étranger et la grandeur passée de la France. Il est violemment antisémite et antidémocrate. Il déteste la République, la monarchie étant le meilleur des régimes à ses yeux. Il déteste également les protestants, les francs-maçons, les juifs et les étrangers. C'est dans l'Action française, entre autres, que Charles Maurras développe sa propagande et laisse éclater son antisémitisme. Le quotidien tire environ 50 000 exemplaires par jour. Ce n'est pas énorme, mais son principal pamphlétaire, Léon Daudet, a une influence considérable sur le monde politique et au sein du gouvernement. À l'époque, les propos antisémites sont monnaie courante dans la presse et les attaques frontales. On n'hésite pas à calomnier et insulter ouvertement les juifs. Maurras, par exemple, invite à fusiller Léon Blum dans le dos. En 1908, ce même Charles Maurras a rassemblé des étudiants dans une organisation dont la première mission est de vendre le journal L'Action française. On les appelle les Camelots du Roi, et ils gagnent très vite de nombreux adeptes. Ils multiplient les manifestations et les chahuts pour faire entendre leurs idées. De nombreuses bagarres éclatent avec leurs contradicteurs. Leur slogan, la violence au service de la raison. De vendeurs de journaux, ils deviennent donc des agitateurs qui ne reculent pas devant les actions violentes. Tout comme les jeunes anarchistes qui se trouvent à l'opposé sur l'échelle idéologique. Donc, quand les anarchistes rencontrent les nationalistes menés par les Camelots du Roi, les affrontements sont incontournables, musclés et très souvent sanglants. Léon Daudet est un journaliste et écrivain prolifique. Il est le fils d'Alphonse Daudet, l'auteur des fameuses Lettres de Montmoulin. C'est à l'époque une personnalité très en vue, qui a épousé la petite fille de Victor Hugo et qu'on appelle Gros Léon tant il mange et boit. S'il a tout du bon vivant, c'est lui aussi un violent antisémite, connu pour son nationalisme exacerbé. Durant l'entre-deux-guerres, cette époque qu'on a appelée a posteriori les années folles, la France est très politisée. Les jeunes, à l'image de Germaine Berton qui veut venger Jaurès, sont très engagés idéologiquement et le terrorisme est un moyen d'action, quel que soit le bord politique. Depuis la fin du XIXe siècle, en effet, les anarchistes sont de plus en plus présents sur la scène politique. Ils promeuvent la propagande par le fait et commettent des attentats terroristes. Sur Studio Minuit, nous vous avons déjà raconté ceux commis par Ravachol et la mort du président de la République, Sadi Carnot, assassiné par un anarchiste. La France n'est pas la seule touchée. En Allemagne, l'empereur Guillaume Ier est victime de deux tentatives d'assassinat de la part d'anarchistes. De même, en Russie, le tsar Alexandre II est assassiné par un groupuscule anarchiste le 13 mars 1881. Pour mater le terrorisme, son fils et successeur, Alexandre III, ordonne la création d'une nouvelle police de sécurité, l'Okhrana. Dès le début de la Troisième République, la répression du terrorisme anarchiste est au cœur de l'actualité politique. Comment un État démocratique peut-il assurer la sécurité de ses citoyens sans pour autant menacer leurs libertés individuelles? En adoptant des lois d'exception. Par exemple, les lois de 1893 et 1894 qui réduisent la liberté de la presse. En cas de propagande anarchiste ou d'apologie d'actes violents, les journaux tombent sous le coup des lois de 1893 et 1894 qu'on appelle les lois scélérates.